Bonjour, bienvenue à tous.
Nous sommes un groupe de détenus du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse.
Vous êtes en direct de Radio B, où nous plongeons dans le monde de la poésie.
Mais une question, qu'est-ce que la poésie?
Vous le saurez en nous écoutant.
Au sommaire, quelques créations, des interviews et de l'info.
La poésie, c'est l'inconnu.
C'est des mauvais souvenirs d'école.
C'est l'amour.
C'est pas facile.
C'est rêver.
C'est les sentiments et les émotions.
C'est une suite de mots.
C'est un labyrinthe.
Christine Fusarelli est une amoureuse de la poésie.
Elle anime une émission sur Radio B et des ateliers d'écriture. Elle est venue nous rencontrer.
C'est quoi pour vous la poésie?
Ah, vaste question, parce que la poésie, c'est tellement... Il y a tellement de choses différentes dans la poésie que c'est difficile de donner une seule définition. Mais je dirais que pour moi, c'est une façon de dire les choses autrement que comme on a l'habitude de les dire. Donc c'est un nouveau langage. C'est pour ça que c'est intéressant.
Comment êtes-vous tombé dedans?
Alors, comment je suis tombée dedans? Peut-être que déjà, je suis tombée dedans un peu à l'école, parce que j'ai eu des profs qui m'ont intéressée à la poésie quand j'étais au lycée, parce qu'au collège, on n'en fait pas vraiment. Au collège, on apprend encore des choses par cœur, mais on ne comprend pas vraiment ce que c'est. Donc, peut-être déjà par le lycée. Et puis après, je ne peux pas dire que j'ai été une passionnée de poésie dès mes jeunes années, enfin, je veux dire dès mes années de vingtaine, trentaine. Je suis venue plutôt à la poésie sur le tard, parce que j'ai rencontré, en fait, un poète, qui est du coin, d'ailleurs, qui était du coin, parce qu'il est décédé maintenant, qui s'appelle Gabriel Le Gall. Et ce monsieur-là, il s'est trouvé que je l'ai rencontré comme ami. Il est devenu un ami. Et avec lui et un autre ami, on a dit des textes de poésie. Donc on a commencé à travailler sur ces textes à lui et sur des textes d'auteurs. Et on les a mis en scène pour les représenter devant un public. Et c'est à partir de ce moment-là, c'est grâce à ces textes à lui que j'ai eu envie d'aller découvrir d'autres auteurs et puis de faire de la radio.
Qu'est-ce qui vous a poussé à en parler à la radio ou encore dans des ateliers?
Je pense que la poésie, c'est sûr qu'elle est écrite, mais je trouve qu'elle prend toute sa valeur quand elle est dite. Donc ça m'a paru important pour des gens qui n'ouvriraient pas forcément volontiers un bouquin de poésie, de leur dire des poèmes. Et moi, j'approche un texte, je suis sensible à la façon dont il est dit. Et ça me touche davantage. Et parfois, quelque chose qui va me laisser insensible à l'écrit va m'accrocher l'oreille et va me plaire à l'oral. Donc, je me suis dit que c'était une bonne chose de la faire découvrir à la radio par des gens, justement, qui vont entendre un texte puis qui vont être accrochés, comme on peut être accroché par une musique. Parce que la poésie, c'est aussi de la musique. C'est un rythme, ce sont des sonorités. Donc tout ça, ça m'a paru important. Et puis les ateliers de poésie, parce que souvent les gens aussi se disent il n'y a que des auteurs qui peuvent écrire. Moi, je ne sais pas, je suis nulle, je n'étais pas bon en français à l'école. Enfin, on se donne plein de raisons. Et puis en fait, quand on leur donne la possibilité d'écrire, tout le monde peut écrire, tout le monde peut s'exprimer. Et souvent, justement, les gens qui sont le moins confiants en eux-mêmes sont ceux qui arrivent à écrire les plus belles choses.
Comment est-ce que vous renouvelez votre intérêt pour la poésie?
J'essaie d'en lire un maximum déjà, et puis surtout d'aller l'entendre, puisque je vous disais que j'aime bien que la poésie soit dite. Et puis c'est un petit peu les hasards de la vie où parfois on cherche quelque chose, parfois je cherche quelque chose sur un auteur, je tombe sur un autre, et petit à petit je me dis tiens, ça c'est intéressant, donc je vais fouiner un peu sur internet, j'essaie de voir si je trouve des textes, j'achète des bouquins, mais bon, on peut pas non plus acheter toujours parce que sinon c'est un peu ruineux, mais voilà. Puis c'est des rencontres aussi, c'est des gens autour de moi qui me disent est-ce que tu connais un tel, une telle, et puis voilà, on s'échange les livres, Donc on essaie chaque fois d'aller vers de nouvelles formes. Et puis moi, je m'intéresse beaucoup à la poésie d'aujourd'hui, à la poésie contemporaine. Bien sûr, j'aime aussi les classiques. Mais dans mes émissions, par exemple, je fais essentiellement de la poésie contemporaine, d'auteurs d'aujourd'hui.
Comment transmettre la poésie aux jeunes générations?
Alors, je pense que l'école, elle peut avoir son rôle. Moi, c'est comme ça qu'on m'a transmis la poésie. Mais il n'y a pas que l'école, parce que l'école, ça peut aussi dégoûter parfois. Parfois, on fait apprendre des textes par cœur. Pour les élèves, c'est un pinsomme. Ils trouvent ça pénible. Ça ne les intéresse pas. Donc après, c'est... C'est difficile de dire. Je pense que justement, le rap et le slam peuvent être des portes d'accès à la poésie, parce que c'est une forme de poésie, le rap. Et c'est une poésie qui est finalement pas si lointaine des classiques, puisque les rappeurs, ils travaillent beaucoup sur les rimes, sur les sonorités, exactement comme ce que faisait Victor Hugo ou ce que faisaient d'autres poètes dans le temps. Donc, moi, je pense qu'il y a différentes approches pour les jeunes, mais je crois que quand on propose des ateliers aux jeunes, moi, ça m'est arrivé dans les lycées, par exemple, et j'ai trouvé que tous ceux qui, au départ, avaient une idée négative sur la poésie, ben, au bout d'un certain nombre de séances, changeaient complètement d'avis et finalement étaient très intéressés. Donc, il suffit de donner envie, quoi, et ça vient tout seul.
Vous nous avez parlé des rappeurs et des slameurs comme étant potentiellement des poètes modernes. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus là-dessus ?
Alors, je ne suis pas une spécialiste, hein, mais je les entends quand même, soit à la radio, soit à la, bon, pas à la télé, parce qu'ils ne passent pas tellement à la télé, en fait, mais soit parce qu'il y a des rappeurs et des slameurs à Bourg. Donc, j'ai déjà eu l'occasion de les entendre. En fait, moi, j'aime bien quand on entend le texte. Et ce que je reprocherais un petit peu parfois, c'est que le débit du rap, par exemple, je ne parle pas du slam, hein, mais le débit du rap est tellement rapide que moi, je n'ai pas le temps de recevoir le texte. Et j'aime bien quand les rappeurs, et j'en ai déjà entendu qu'ils le font, prennent le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours dans la précipitation. Et je trouve que ça peut être très beau, quoi, dans ce cas-là. Et je trouve que ce qui est positif, par contre, chez les rappeurs, c'est qu'ils jouent vraiment avec les sons des mots. Et ça, c'est essentiel dans la poésie. Et les slameurs le font peut-être, je dirais pas mieux, mais en tout cas peut-être plus facilement, parce que le slam, normalement, le slam, c'est sans musique, quoi, hein, alors que le rap, il y a toujours un fond musical. Mais je trouve qu'il y a des choses très bien qui se font, quoi, et que c'est de la poésie, parce que la poésie, c'est pas une forme unique. Il y a plein de formes différentes, et même dans les auteurs contemporains qu'on lit aujourd'hui, il y a des gens très 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 différents. Il y a des gens qui ont une forme très classique, un petit peu comme pouvait écrire, je vous disais, Victor Hugo ou Baudelaire ou tous ces gens du 19e ou du 20e siècle. Et puis il y a des gens qui ont des formes très éclatées, très très modernes, qu'on ne comprend pas forcément, parce que la poésie, est-ce que ça doit être compris toujours ? Pas forcément. Je pense qu'on reçoit un texte, et puis y a des choses qui sont très accessibles, d'autres qui le sont moins. Mais ce qui compte, c'est comment on ressent tout ça. Qu'est-ce que ça provoque chez l'auditeur ou chez le lecteur, pour celui qui lit ?
Vous faites des ateliers avec des publics différents pour partager votre amour de la poésie. Comment ça marche ?
Alors oui, moi en fait j'ai commencé des ateliers avec des personnes âgées. Ces gens qui sont âgés, qu'on considère un peu souvent, qui sont souvent mal considérés, je trouve, qu'on met un petit peu au rancard comme ça. Ils avaient peut-être des choses à dire. Et voilà, je me suis lancée avec eux et je me suis rendu compte que les personnes âgées, elles avaient justement beaucoup de choses à dire, à écrire et qu'elles avaient plaisir à faire ça. Donc moi, ça m'a donné confiance, puisque moi, c'est la première fois que je faisais ça avec eux, donc j'étais pas fière la première fois où ça s'est passé. Et puis, c'est le succès de ça qui m'a encouragée à en proposer à d'autres gens. Donc après, ça a été, oui, des lycéens, ça a été des gens malades. Et donc, après, j'ai proposé ça aussi au CPA, à Bourg-en-Bresse, avec des gens qui avaient des problèmes psychiatriques. Et chaque fois, je me suis dit, j'ai été chaque fois étonnée du succès que ça peut avoir et de l'intérêt que les gens peuvent prendre, même s'ils n'avaient jamais fait ça avant. Et je trouve que c'est quelque chose, moi, qui m'a apporté beaucoup. Et comment je procède ? En général, je procède généralement toujours avec de la musique. C'est-à-dire qu'avant d'écrire, on écoute une musique que moi, j'apporte. Alors ça peut être très varié, ça peut être une musique moderne, ça peut être du classique, ça peut être du jazz, ça peut être une musique du monde. Et à partir de ça, les gens écrivent les mots qui leur viennent à l'écoute de la musique. Et on partage ces mots, on fait un premier tour de table, on partage ces mots. Donc ça fait une sorte de réservoir de mots dans lequel on peut puiser après pour écrire. Et puis on écrit, moi je donne, on discute, on échange, et puis l'écriture commence seulement après. Et puis à la fin de la séance, on partage ce qu'on a écrit. Chacun dit, ce n'est pas une obligation, celui qui n'a pas envie de dire, il ne dit pas. Mais en général, tout le monde aime bien, quoi, parce qu'on se rend compte qu'à partir d'un même point de départ, ça a fait plein de textes différents selon les personnalités de chacun.
Qu'est-ce que ces ateliers apportent aux participants ?
Alors, c'est à eux qu'il faudrait poser la question. Mais enfin, je pense que d'après ce que j'ai pu échanger avec eux, ça crée du lien. Par exemple, il y a un atelier de personnes adultes que je vois une fois par mois seulement. C'est pas beaucoup, une fois par mois pendant 3 heures. Et ça fait plus de 10 ans qu'on fait ça. Et il y a des gens qui sont là depuis le début. Il y a des gens nouveaux qui arrivent chaque année. On est à peu près une quinzaine maintenant. Donc, on ne se fréquente pas en dehors de ça, en dehors de l'atelier. Mais il y a des liens très forts. Et quand il arrive quelque chose à l'un d'entre nous, tout le monde se sent concerné, quoi. Hein, même si on n'est pas amis. Mais en tout cas, le fait d'écrire ensemble, de partager quelque chose d'intime, parce que souvent, quand on écrit, on exprime de l'intime, ça crée une sorte d'amitié, même si ce n'est pas une amitié entretenue régulièrement.
Christine Fusarelli, merci.
Merci à vous pour vos questions.
Bonjour mon amour, je t'écris cette lettre à l'endroit de mon bonheur. Mais comme tu n'es pas là, c'est un cauchemar. Et en Sibérie, il fait froid. Et c'est l'hiver. À minuit, mon cœur se réchauffe à l'idée que je sais que tu es à moi. Je souffre mon petit rayon de soleil. Je suis congelé. Viens me piquer avec tes douces lèvres. Dégivre-moi s'il te plaît. Je suis bloqué sans toi.
Du 6e au 20e siècle, les poètes arabes ont régné en maître dans le monde allant du Moyen-Orient, Irak, Syrie, à l'Europe et Espagne. Le rôle et la place de la poésie étaient très importants. Il s'agissait du mode d'expression privilégié, notamment pour raconter des histoires ou rapporter des exploits, champs de bataille, etc.
Plus précisément, quelle était la place de la poésie dans la société ?
La poésie chez les Arabes était aussi une marque de sagesse. Son utilisation était considérée comme la mine de la science des Arabes. Dès le plus jeune âge, la poésie était enseignée en même temps que la langue et surtout avant le calcul ou le Coran. Lors de négociations ou de débats, la poésie était vraiment un argument décisif.
Comment les poètes pouvaient-ils vivre de leurs vers ?
Dès le 6e siècle, les poètes ne peuvent pas vivre uniquement de leurs écritures. Afin d'être repérés par d'éventuels mécènes, ils doivent multiplier les écrits et surtout des écrits marquants.
Comment devenait-on poète ?
Tout le monde sachant parler était potentiellement un poète en herbe. Indépendamment de son origine ethnique, de sa classe sociale. Les hommes de lettres étaient plus souvent d'origine très modeste.
Pourquoi devenir poète en ce temps-là ?
Ils étaient plus poètes pour leurs intérêts et les avantages que pour la vocation en soi. Les avantages d'avoir un mécène, en plus d'être rémunéré, sont le changement de statut social et d'avoir une protection du mécène et donc une liberté de ton.
Et pour les mécènes, quel est l'intérêt ?
La poésie pour les mécènes est un moyen pour convaincre et donc de faire passer et gagner ses idées. Le mécénat n'est jamais désintéressé car les poètes sont chargés de donner plus d'éclat et d'immortaliser les mérites du mécène. Le rôle de ces hommes de plume était considérable.
Y a-t-il un lien entre cette époque et la poésie d'aujourd'hui ?
Pour faire le lien avec le monde d'aujourd'hui, c'est comme s'ils occupaient la fonction d'éditorialiste. Le pouvoir du poète s'est accru car les vizirs cherchaient leurs acceptations, synonymes de pouvoir, de persuasion et d'inspiration politique. On peut considérer cela comme une sorte d'ancêtre de la diplomatie. Pour moi, la poésie, c'est vouloir utiliser le savoir afin d'influer sur le pouvoir.
Notre amour s'embrase, têtu comme un diktat, vivant comme un cœur battant, cruel comme un hain, bête comme un bêtisier, tendre comme un baiser, froid comme la mort, beau comme une aurore, fragile comme du cristal. Il nous brûle et rafraîchit, il nous parle en susurrant. Et moi, je l'écoute en frissonnant. Après une de mes créations, voilà l'interview d'une vraie poétesse. Bonjour Mélanie Leblanc. Si vous deviez vous présenter en quelques vers, ça serait lesquels ?
Alors, je ne peux pas improviser des vers comme ça, surtout pas sur moi, c'est dur. On m'avait déjà demandé en quelques mots. J'ai le droit de répondre en... Alors, en quelques mots, et les mots qui m'étaient venus, c'était joie, liberté, loutre. Je ne sais pas pourquoi, mais la joie, la liberté, c'est vraiment des choses importantes pour moi. Et loutre, pour le côté un peu foufou.
C'est quoi la poésie pour vous ?
La poésie, c'est aussi simple qu'un verre d'eau. Et en même temps, ça contient tout. Dans un verre d'eau, vous avez tout pour le vital, en fait, pour étancher votre soif et toutes les soifs, symboliques ou pas. C'est simple, il n'y a rien de plus simple qu'un verre d'eau, ça s'offre, c'est vraiment quelque chose de généreux qu'on peut donner à qui que ce soit et que l'on soit. Donc il y a vraiment quelque chose de très, très simple, très accessible à tous, en fait, et en même temps très précieux, très riche, très, qui nous relie, en fait. Parce que l'eau, on en a dans notre corps, et en même temps, on a besoin d'en boire. Donc, je sais pas pourquoi, ouais, c'est le verre d'eau qui me vient.
Qu'est-ce qu'un poème?
Qu'est-ce qu'un poème? Cette question, elle est immense. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Un poème, peut-être, j'ai une amie qui dit, c'est à partir du moment où on revient à la ligne. Mais il y a des gens, ils reviennent à la ligne, et c'est juste, en fait, ça pourrait être du roman, et ils reviennent à la ligne. Et donc, ça fait pas poème. Donc, il y a le fait de revenir à la ligne qui compte, mais je pense qu'il faut d'autres choses. Alors, je m'appuie sur un autre poète que j'aime beaucoup qui s'appelle Antoine Aimaz. Il disait que c'était une forme d'équation entre émotion, sensation, langue et mémoire. Et donc, voilà, il faut qu'il y ait de la langue. Je pense qu'il y a un travail de la langue et il y a une grande présence des émotions et des sensations. Et ça, ça me parle beaucoup en poésie. Émotion, sensation, langue, ces trois trucs-là, je pense que ça joue.
Alors, pour rebondir là-dessus, justement, au niveau émotion, sensation et langue, il y a d'autres arts, par exemple, qui transmettent aussi ça, comme la musique. Est-ce que vous diriez que la musique ou le slam, par exemple, ça peut être une sorte de poésie moderne?
Alors, moi, je le dis, mais il y a des poètes qui ne sont pas d'accord. Mais je pense qu'en fait, la poésie, c'est un champ très large et c'est le champ de l'écrit. Donc, évidemment qu'un slam, ça fait partie de la poésie. Stromae, pour moi, c'est un poète et c'est pour ça quand on dit la poésie, c'est pas connu. Je suis là, bon, Stromae, quand même, il fait des milliards de vues. Donc oui, c'est de la poésie et il y a de la musique. Et en fait, jusqu'au XVIe siècle, on ne séparait jamais poésie et musique. À partir du moment où il y a un texte qui est travaillé, voilà, on peut dire que c'est de la poésie. Moi, j'ai cet avis-là, mais il n'est pas forcément partagé par tous.
Comment vous êtes venu l'amour de la poésie?
Je pense que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui s'émerveillaient sur le monde. Ils s'émerveillaient quand il y avait un coucher de soleil, devant la nature, devant les arbres, devant la mer. Et j'ai passé beaucoup de temps enfant près de la mer aussi, près des falaises. Mon premier livre s'intitule « Des falaises ». Il est publié chez Chêne Éditeur et je pense que les falaises, elles m'ont vraiment fait réfléchir sur le temps qui passe, par exemple. Et donc, juste observer la nature, ça m'a beaucoup nourri ça a répondu à des questions que je me posais sur le sens de la vie, quoi.
Quelle est votre première poésie que vous avez écrite?
Alors, le premier poème que j'ai écrit, je pense que j'avais à peu près 8 ans. Je me souviens juste d'une chose, c'est que c'était pour un joueur de rugby. Voilà. Et après, à 12 ans, je sais que j'en ai écrit un que j'ai gravé sur une poutre. Donc déjà, il y a eu ce geste de, pas forcément écrire dans un livre, mais d'écrire en dehors du livre.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'en écrire?
En fait, j'ai été un peu obligée. J'ai fui ça pendant longtemps, j'osais pas, je me sentais pas légitime, etc. Et puis en fait, j'avais une phrase qui me hantait, qui restait dans ma tête tout le temps, tout le temps. C'était « J'avance aveugle dans des champs de lin bleu ». Et cette phrase, elle était mystérieuse pour moi. Je sais pas pourquoi j'avais cette phrase en tête, mais au bout d'un moment, je l'ai écrite et un poème est né. Et puis c'est venu un peu comme ça, quoi, comme une obligation. Et dans mes premiers poèmes aussi, j'entendais des cris, quoi, comme des appels, etc. Et aussi, la première fois que j'ai rendu public un poème, en fait, j'ai suivi un rêve. J'avais rêvé du mot « think » écrit sur un passage clouté. Alors, trop bizarre, j'avais rêvé en anglais. Et en fait, je l'ai fait. Et le fait de faire ce geste-là symbolique, de rendre public, eh bien, ça m'a débloqué. Et j'ai ensuite réussi à partager à travers des revues, etc. Et bien plus tard, à travers des livres.
Vous nous avez parlé de falaises. On sait que vous avez grandi sur la côte d'Albâtre. Quelle inspiration trouvez-vous dans cette région?
Alors oui, j'ai grandi sur la côte d'Albâtre. C'est pas très loin d'Étretat. Elles sont fameuses, les falaises d'Étretat. Les falaises, elles m'ont beaucoup inspirée au niveau de la question du temps et de l'espace. En fait, c'est deux questions vraiment importantes en poésie. Et pour moi, je pense que ce sont aussi des questions philosophiques. Mais aborder ces questions philosophiques par le biais de la poésie, je trouve que ça permet déjà un truc plus léger. Et finalement, par cette légèreté et par un truc, par une façon d'exprimer... grâce à laquelle on peut jouer aussi avec les mots, etc. Finalement, par le léger, on trouve des choses plus profondes. C'est bizarre à dire, mais j'ai l'impression que en sortant du concept, en n'étant pas dans la lourdeur du concept philosophique, on arrive à partager une idée forte. Et donc, moi, j'aime bien faire jouer les contrastes ensemble. Et par exemple, ce qui m'a inspirée avec ces falaises en Normandie, c'est que je savais qu'on appelait la falaise vivante la falaise blanche. Il y a des endroits où la falaise, on dit qu'elle est morte, mais c'est l'endroit où elle ne s'écroule plus. La falaise vivante, c'est la falaise qui s'écroule, en fait. Donc c'est paradoxal. Et là, je me suis dit, ah ouais, voilà, ça, ce genre de choses, ça m'a inspiré, quoi.
Et plus globalement, qu'est-ce qui vous inspire pour écrire ?
En fait, c'est, je crois que c'est en étant dans la présence que je suis inspirée. Donc tout peut m'inspirer. La nature joue une grande part, évidemment. Je passe beaucoup de temps à... Enfin, dans la nature, j'aime bien écrire en lien avec la nature. Mais ce qui va m'inspirer, ça peut être aussi ce qui me bouscule au niveau des émotions, évidemment. Ce qui compte pour moi, par exemple, en 2021, il y a eu beaucoup de divisions dans la société. C'est encore palpable, hein, mais il y a eu beaucoup de divisions sur la question sanitaire et sur les. C'était en période préélectorale, donc il y avait beaucoup de divisions au sein des familles. Et vraiment, moi, ça allait en contradiction totale avec ce que je ressentais très fort, c'est qu'on était tous liés. Et je sens de plus en plus que on est complètement reliés à la nature et que si la nature va mal, nous, on va aller mal aussi. On ne peut pas se couper comme ça du vivant. Et donc là, ce qui m'a inspirée, c'est vraiment insister sur le « nous ». Et donc, c'est juste le mot « nous » qui m'a vraiment portée. Et j'ai écrit le manifeste du « nous » pour vraiment insister sur ce qui nous reliait, en fait. Au-delà de toutes les tensions et les divisions que les médias nous assènent, en fait.
Mais c'est à quel moment que vous vous êtes dit que vous êtes poétesse ?
C'est super dur de se dire qu'on est poétesse. Et je pense que c'est après avoir publié 3-4 livres, pas avant. Et en fait, je me suis dit, tout simplement, c'est important que je l'assume parce que quelqu'un qui joue de la musique, même sans être professionnel, on dit il est musicien. Et pourquoi on ne dirait pas d'un poète ou d'une poétesse, il est poète ou elle est poétesse ? Ça met la poésie sur un piédestal et ça la rend presque inatteignable. Donc en fait, je pense qu'il faut se détendre avec ça. Et quelqu'un qui joue de la musique, c'est un musicien. Quelqu'un qui écrit des poèmes, c'est un poète. Voilà. Et une poétesse, c'est une femme.
Pour en revenir, vous avez écrit le manifeste de nous, justement, ou encore Les gens qui osent. On dirait que vous parlez au nom des autres, mais que vous ne vous dévoilez pas personnellement. Qu'en pensez-vous et pourquoi ?
Ah, c'est super intéressant. J'essaie de me laisser traverser, en fait. Là, j'en parlais pour le manifeste du nous, c'est vraiment une parole qui m'a traversée. Les souhaits aussi, je les ai trouvés en marchant. J'aime bien marcher, notamment sur le chemin de Compostelle, et il y avait des souhaits qui venaient comme ça. Et donc, oui, j'ai l'impression que je fais passeuse, en fait. Je transmets. Et que je donne, et qu'une fois que le livre est donné au public, il appartient à tout le monde. Et oui, je pense que c'est pour ça que je vous disais, le verre d'eau, il y a un truc généreux quoi, qui est donné comme ça. Et en même temps, j'ai remarqué avec Des falaises, mon premier livre, que plus on allait dans l'intime, dans le plus intime, plus on touchait l'universel. Parce que moi, j'avais une histoire personnelle, en fait, avec les falaises. Et qui peut se deviner en filigrane, mais je voulais pas... Enfin, par exemple, j'emploie pas le jeu dans Des falaises et je raconte pas pourquoi les falaises, elles m'ont donné, elles me fascinent et en même temps, elles me faisaient peur. Je raconte pas ça clairement, mais je laisse de la place pour que le lecteur, il puisse l'investir s'il a envie de l'investir ou pas. Et parfois, c'est des très jeunes qui ont vu et les adultes voyaient pas du tout, en fait. Et c'est ce que j'aime dans la poésie, c'est que ça laisse de la place au lecteur, en fait.
Qu'est-ce que ça vous apporte d'écrire de la poésie ?
Ça m'apporte tout, en fait, et ça m'apporte notamment l'amitié. Ça me relie, en fait, de cœur à cœur avec les gens et même des inconnus. Et c'est immense, en fait, quels que soient les âges et les différences des gens que j'aurais jamais rencontrés dans la vie, des gens qui habitent loin, mais qui sont même très différents de moi. Et on arrive à se relier sur de l'essentiel. On n'est pas sur de la conversation de surface. On se retrouve, quoi. J'arrive à communiquer sur des choses qui comptent vraiment pour moi et qui ne sont pas juste « salut, tu vas bien », quoi. Et donc, ça m'apporte des amitiés hyper fortes, par exemple. Et des belles rencontres, comme aujourd'hui, je peux faire avec vous. Et ce matin, j'ai pu faire avec des enfants à Bourg-en-Bresse.
Comment faites-vous pour transmettre l'amour de la poésie ?
Je me déplace et je vais parler aux gens. Je vais les rencontrer, déjà. Et je pense que c'est bien la rencontre et de dire les poèmes à voix haute et de partager des moments, même si on n'est pas nombreux, même dans l'intimité, où on échange vraiment là-dessus. Et puis j'aime bien aussi sortir le poème du livre. Donc par exemple, j'ai écrit dans la rue, comme je disais, là, avec sur les passages cloutés, je l'ai fait plusieurs fois, ou dans la nature. Et parce que j'aime bien que ça soit accessible à tous, la poésie, et pas seulement... évidemment, c'est génial d'aller dans les librairies indépendantes et trouver des beaux livres et publiés chez des éditeurs indépendants, comme j'aime. Mais en même temps, je pense que c'est bien que ça puisse jaillir partout.
Comment voyez-vous l'avenir de la poésie ?
J'ai énormément d'espoir. Il y a vraiment un mouvement immense qui se passe là. C'est international. Hein. En France, là, on le sent depuis 2 ans. que ça augmente à un niveau incroyable. Mais aux États-Unis, en Amérique latine, il y a vraiment une place immense qui est accordée à la poésie. Dans les pays du monde arabe, c'est très reconnu depuis des siècles et des siècles. Et c'est vraiment en France que c'est en train, d'être plus reconnu, de prendre sa véritable place. Et je connais plein de jeunes là qui se bougent, qui osent, qui font des scènes ouvertes. Les lignes bougent énormément. C'est vraiment... Enfin, je suis pleine d'espoir pour la poésie, vraiment.
Vous nous avez parlé que la poésie revient sur le devant de la scène en France depuis 2 ans et depuis un peu plus longtemps dans d'autres parties du monde. Est-ce que c'est par rapport à l'histoire de la poésie en Occident et ou dans ce pays en France ou c'est autre chose qui fait qu'on a un tel retard à ce niveau-là?
Alors, au niveau mondial, je pense que ce qui se passe, c'est qu'on est dans une ère de la rapidité, et donc la poésie, ça se transmet très facilement sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, par exemple, Rupicor, elle a fait un best-seller avec Lait et Miel, et qui a été traduit dans plein de langues. Donc voilà, il y a le fait de partager sur les réseaux sociaux qui joue. C'est sûr. Le fait que la poésie, surtout, je pense, réponde à des questions métaphysiques sans être dans un... et des questions humaines profondes qui traversent tous les êtres sans être dans un contexte religieux. Et je pense que les gens ont profondément besoin de se poser des questions philosophiques, métaphysiques. Et la poésie, ça peut être un lieu où s'en poser. Donc je pense que les gens ont vraiment un besoin profond de poésie, surtout après le confinement, etc. Enfin, je sais pas, on est bousculé quand même dans tout ce qu'on vit. Et la poésie, c'est très nourrissant. Alors pourquoi, dans la question, il y avait pourquoi en France c'est en retard? Je pense que le fait que la France soit un pays avec une culture de séparation de l'Église et de l'État, etc., il n'y a pas du tout de vision du poète prophète. Et puis on a aussi des poètes très écrasants, Rimbaud, Baudelaire, Hugo, etc. Donc c'est très impressionnant. Et c'est long d'oser se dire poète ou poétesse quand les modèles, ce sont des vieux poètes morts et des génies, quoi, écrasants.
Merci Mélanie Leblanc pour le temps que vous nous avez accordé. Je tiens à rappeler que vous êtes poétesse.
Merci beaucoup d'employer ce mot auquel je tiens. En effet, comme on dit maître, maîtresse, on dit poète, poétesse. Merci à vous pour la qualité de vos questions.
Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés.
On espère que votre image de la poésie a changé.
À bientôt sur Radio B.
Je t'écris depuis la lune, tandis que tu es sur la terre. Où sans doute tu ne penses être qu'une, mais nous sortirons du terre-terre. Tout comme les grains de sable d'une dune, nous nous envolerons ensemble dans les airs.